Écoute. Écoute.
Bonjour, je reçois aujourd'hui Didier Lebret, qui a été directeur du centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères, qui a également été ambassadeur à Haïti au moment du tremblement de terre, avant de prendre la direction de ce centre de crise et de soutien, et qui ensuite, en juin 2015, a été nommé coordonnateur national du renseignement intérieur-extérieur, militaire et aussi anti-fraude financière. C'était vraiment une sorte de rassemblement, l'ensemble des fonctions de renseignement. À quoi correspondait ce besoin de rassembler ces différentes fonctions et de les placer auprès du président de la République ?
Alors c'est vrai que c'est pas un modèle, j'ai pu le constater en prenant mes fonctions, parce que en bon européen convaincu, je me suis dit peut-être que dans un contexte où l'Europe est pas le moindre des enjeux pour lutter contre le terrorisme, et puis sur d'autres sujets d'ailleurs, voyons mes homologues européens. Et j'ai réalisé qu'en fait j'en avais très peu, l'allemand, l'italien, mais chacun a un statut un peu sui generis. L'allemand a un rang de secrétaire d'État, donc il est à la chancellerie, donc il est comme je l'étais, et comme le sont mes successeurs, il est placé auprès du chef de l'État. Mais ailleurs, vous avez des profils de type parfois un peu SGDSN, c'est-à-dire qui sont plutôt au niveau du gouvernement, auprès du Premier ministre. Et puis vous avez beaucoup de pays où la fonction n'existe pas. Alors l'origine de cette fonction en France, c'est 2007-2008, donc avec un ensemble de réformes qui avaient été portées à l'époque par Nicolas Sarkozy. Mais le vrai point de départ de la réforme, c'est le 11 septembre. C'est le 11 septembre, au moment où les Américains réalisent qu'ils avaient toutes les informations en main pour prévenir l'attentat du World Trade Center. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que les agences n'ont pas communiquer entre elles les infos pertinentes. Ça n'a pas matché. Et donc, à partir de là, il y a une enquête, et le Congrès fait un certain nombre de recommandations, dont celle de créer un poste de coordonnateur pour l'ensemble des services. Donc, en fait, l'ancêtre, historiquement, c'est les États-Unis, et la France s'y est mise un petit peu plus tard.
Donc, est-ce que ce sont les attentats de janvier 2015 qui ont conduit à la création de ce poste ?
Non, puisque c'est antérieur, c'est 2008. Le premier titulaire de la fonction, c'est Bernard Bajolet, donc qui était aussi diplomate de carrière, qui avait été dans les postes sensibles en Alger, etc. Et donc c'est lui qui essuie les plates, qui crée la fonction ex nihilo, hein, parce qu'elle n'existait pas, entre, quelque part, le conseiller diplomatique, qui est à l'Élysée, et le chef d'état-major particulier. Parce qu'autrefois, cette fonction, elle était partagée un peu par les deux. Le conseiller diplo avait bien évidemment, comme le président de la République, toute l'info en provenance des services. Il pouvait lui en faire un exergue, il pouvait appeler son attention sur tel ou tel point, de la même façon que le faisait le chef d'état-major particulier, mais il n'y avait pas un brief, comme c'est le cas aujourd'hui, tous les soirs. Avant de quitter le bureau, on transmet au chef de l'État un document de synthèse qui ne porte pas que sur la matière contre-terreau. Ça porte sur l'ensemble des aspects qui sont à porter au niveau du président de la République, qui sont dans l'intérêt réel pour qu'il ait une vision à 360 degrés de l'activité des services et de ce qui peut intéresser la sécurité de notre pays.
On a souvent parlé de la concurrence ou de la guerre des services, du fait qu'il y avait assez peu de coopération entre les uns et les autres, voire même des fois une compétition entre eux. Est-ce que ce type de fonction a pu permettre de conduire à diminuer ces oppositions, je dirais presque bureaucratiques, et où est-ce qu'elles existent finalement toujours encore, parce que c'est la nature de ces structures d'agir un peu de façon corporate?
Le monde du renseignement, c'est compliqué. C'est compliqué parce que vous avez à la fois des entités qui sont dans le giron des ministres. Par exemple, Bercy a à la fois Tracfin et la DNRED, donc les douanes et puis la lutte contre le blanchiment. Donc très clairement, il y a une autorité de tutelle. La DGSE a une autorité de tutelle, qui est le ministre de la Défense, mais c'est plus compliqué que ça. La DGSE, sur certains dossiers, peut être en ligne directe avec le chef de l'État. Ça fait partie, c'est écrit nulle part, mais ça fait partie des us et coutumes. La DGSI a un patron, pareil, le ministre de l'Intérieur. Mais sur certaines matières aussi, il peut y avoir, etc. Donc on voit bien qu'on est dans une logique où à la fois, bon, chacun a un chef. Après, le Premier ministre est censé être le lieu de synthèse. Avec le président, c'est plus compliqué parce que le président est à la fois le chef des armées, chef de la diplomatie aussi, quelque part. Donc sur une matière aussi sensible, aussi régalienne que la sécurité en profondeur de notre pays, rien n'interdit qu'il puisse poser, je dirais presque en direct. Alors là, il ne le fait plus en direct, il le fait à travers son CNR, son coordinateur national du renseignement. Je pense que sur le papier, la répartition des tâches, elles sont claires entre les différents services. Il n'y a pas de doublons, il n'y a pas de redondance. En revanche, il y a une chose qui est réelle, c'est que en fonction de l'actualité, tout le monde va vouloir faire la preuve de son efficacité. Donc dans ces moments-là, là en l'occurrence, bon, depuis Charlie, mais peut-être même avant, l'affaire Mera, etc., on est sous une pression extrêmement forte de l'opinion, des médias, avec une obligation, si ce n'est de résultats, en tout cas de moyens, et de prévenir le maximum d'attaques sur notre territoire. Chacun a envie d'apporter, d'être contributeur net à cette cause, qui est une cause nationale. Le problème, c'est que tous n'ont pas les mêmes moyens, donc le rôle du CNR, c'est de faire en sorte que chacun soit le meilleur là où il est, avec ses moyens, mais ne commence pas à vouloir développer des stratégies avec des moyens qu'il n'a pas, et en demandant éventuellement des moyens additionnels pour faire comme le voisin. Exemple typique d'une guerre permanente entre la DRM et la DGSE. La DRM, c'est le renseignement militaire, la DGSE, c'est la sécurité extérieure. Ils sont tous les deux sur des théâtres extérieurs à la France. Donc il y a déjà cette espèce d'ambiguïté, puisqu'ils n'ont pas un champ de compétences territoriales délimité. En revanche, ils ont des métiers très différents. Et ce qui fait la force d'un service, c'est d'être le meilleur, ce pour quoi il a été conçu.
Dans le passé, on se rappelle de l'affaire Greenpeace, les services avaient une très mauvaise image. Il y avait, et on se rappelle également du temps de Alexandre de Maranche, l'opposition à François Mitterrand, il y avait un côté un peu sulfureux et très marqué politiquement et pas toujours opérationnel. Est-ce que cette image a changé? Est-ce qu'on est passé dans un autre monde du fait de l'actualité? Est-ce que, selon vous, les Français comprennent mieux l'importance du renseignement? Et est-ce que les services ont conscience de la nécessité de ce professionnalisme et d'une bonne image auprès du public?
On a eu, c'est un vrai sujet. Hein. La question de l'image, c'est pas un petit sujet, c'est pas un sujet anecdotique, parce que ça conditionne tout. Ça conditionne le niveau d'alerte d'une nation. C'est pas un service qui peut faire tout le travail pour limiter le piratage technologique, la sortie de brevets, l'acquisition sauvage de pans entiers de notre économie. Les services ont une compétence limitée. Ils peuvent faire ce pour quoi ils ont été conçus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet état de veille, d'alerte, ça vaut aussi pour le contre-terrorisme, ça doit être un sentiment général, positif, partagé par le plus grand nombre de citoyens. Donc ça veut dire que pour que le renseignement ait une bonne... Si le renseignement, pardon, n'a pas une bonne image, ça pollue ce message. Donc c'est clair qu'il y a un problème... Je dirais historique, la tradition française n'est pas une tradition de renseignement. L'esprit chevaleresque fait qu'on ne regarde pas de l'autre côté de la colline pour savoir ce qui se passe, on fronce tête baissée et puis au lecœur et que le meilleur l'emporte. Bon, on ne peut plus gagner une guerre comme ça. Pour gagner une guerre aujourd'hui, quelles que soient les guerres, il faut être un peu malin, il faut être un peu sioux, comme disent les jeunes. Je rappelle quand même que, c'est pas récent, hein, chez les Grecs, le personnage mythique par excellence qui incarne presque l'homme dans toute sa splendeur, c'est Ulysse. Et Ulysse, le mot grec qui définit son intelligence, c'est la métis. Métis, c'est la ruse. Chez les Grecs, la ruse, c'est une forme de sophistication de l'esprit humain que ne peut pas avoir l'animal, ou qui peut avoir, mais pas à un degré aussi sophistiqué que l'homme, et qui permet parfois, avec moins de force, mais plus d'intelligence, de contourner l'obstacle. Pour faire court, les Britanniques, ils ont James Bond. James Bond, c'est le nec plus ultra du serviteur de l'État. Il est prêt à tout pour arriver à ses fins, parce que rien de plus important que la couronne, le drapeau anglais, etc.
Puis il fait plutôt envie.
Il fait envie. Nous, on a du jardin, OSS 117, c'est moins glorieux. Ouais. Mais tout ça a bougé. Tout ça a bougé, pourquoi? Parce que la guerre contemporaine, dans son essence aujourd'hui, elle est plus technologique que physique. même si malheureusement elle est encore physique. Mais... Et donc si elle est technologique, il faut d'une manière ou d'une autre attirer les meilleurs cerveaux. Il faut des ingénieurs, il faut des scientifiques, il faut à l'IRIS des spécialistes de géopolitique, il faut des linguistes, il faut des bacs plus 40, il faut des bacs plus des gens qui puissent amener l'institution au niveau où elle doit être.
Est-ce que c'est facile de recruter parce que c'est quand même une vie où on ne peut pas trop dire...
Aucun problème. Aujourd'hui, aucun problème.
Si on ne peut pas dire ce que l'on fait, on a quand même des précautions à prendre, ce n'est pas une vie tout à fait normale. Donc,
vous m'auriez posé la question il y a 15 ans, on n'était pas dans le même univers. Aujourd'hui, les jeunes ont intégré le fait que, si je prends que la DGSE par exemple, c'est un univers... Alors, bien sûr qu'il y a eu un travail qui a été fait sur l'image.
Le bureau des légendes a aidé.
Ah, mais énormément, énormément. Mais ça a été préparé par tout un glissement progressif où on est passé des barbouzes à la lutte contre le cybercrime, etc. Donc, on voit bien qu'on a changé de vision, et heureusement. Heureusement.
Dans la lutte contre le terrorisme, est-ce que parfois votre l'action des services, l'action de n'est pas gênée par l'activité des médias? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous aimeriez que on parle moins de tel sujet, ou est-ce qu'il y a des fois où il est compliqué de pouvoir traiter une affaire par rapport au désir d'information ou et à la volonté aussi de chasser le scoop?
Il y a deux moments dans la pression médiatique qui sont dommageables. Le premier, c'est quand on essaye immédiatement de rendre public des informations qui doivent être traitées sur un bon accord confidentiel pour arriver à démêler les fils de la pelote et remonter le plus vite possible aux auteurs et aux complices. Donc plus on parle, plus il y a de fuites, plus on informe largement ceux qui n'attendent que ça, d'avoir des infos pour savoir où on en est de notre degré de connaissance et pour pouvoir éventuellement se carapater. Donc ça, c'est la première chose. Oui, ça peut être nuisible au bon déroulement d'une enquête et de travail, soit en judiciaire, soit en renseignement. Et de manière plus générale, c'est dommageable aussi dans le sens où l'hypermédiatisation du terrorisme, comme une espèce d'absolu, fait exactement ce que les terroristes attendent de nous, c'est d'en faire un absolu. Ça n'est pas un absolu, le terrorisme. D'abord, c'est la chose la plus vieille. C'est aussi vieux que l'homme et que l'humanité. La guerre asymétrique, la terreur a toujours été un moyen disproportionné pour arriver à ses fins quand on estime que autrement, ça serait plus difficile. Et c'est une façon de glorifier, en lui donnant autant d'importance, quelque chose qui devrait être traité avec beaucoup de calme, voire même d'une certaine forme de mépris. C'est-à-dire, en faisant de ces jeunes, non pas des héros, c'est pas ce que font les médias, mais à chaque fois qu'on a un attentat, en faisant comme si le monde allait basculer, non, le monde ne va pas basculer. Jamais. Le monde ne basculera pas.
Quand vous dites ça, et c'est ce que je dis souvent, on vous accuse de ne pas prendre suffisamment en compte la dimension de la menace qu'est le terrorisme. Et quand on dit effectivement, on tombe dans le piège terroriste à en parler autant, à donner autant d'impact à leur action et que finalement c'est le but qu'ils recherchent, on est vite qualifié d'être dans le déni ou d'être un complice objectif. Donc, comment faire en sorte, est-ce qu'il n'y aurait pas faire en sorte une charte de responsabilité? Est-ce que le travail des services aussi, c'est d'aller voir les responsables politiques, d'aller voir les médias pour dire comment faire en sorte qu'il y ait un certain, disons, respect, si ce n'est des règles, du moins de ne pas tomber dans ce piège-là et ne pas en faire trop? Est-ce que ça existe ou finalement chacun se débrouille et on arrive à la situation où on parle beaucoup plus du terrorisme que d'autres menaces et que c'est devenu le sujet majeur, au point tel d'ailleurs que l'actuel président en a fait dans son discours devant les ambassadeurs la menace majeure sur le pays, ce qui peut se discuter?
Moi, je ne crois pas que ce soit le travail des services d'intervenir en direct auprès des médias. Ils ne sont pas armés pour ça, ils n'ont pas la culture, ils n'ont pas la légitimité. Le politique est dans son rôle de réfléchir collectivement avec c'est pas seulement les médias.
Mais le politique est souvent le premier à faire de la surenchère.
C'est pour ça, je pense qu'il faut d'abord que la réflexion soit mûre. Est-ce que oui ou non, aujourd'hui, ça constitue un frein dans la gestion de ce phénomène? Pour moi, la réponse, elle est évidente. Oui. C'est un obstacle majeur pour la gestion sereine de ce phénomène. Donc si les politiques en sont convaincus, après ça veut dire toute une série de conséquences très pratiques. Ça veut dire que, par exemple, il peut y avoir des anniversaires rappelant ce qui s'est passé, mais il faut arriver petit à petit à contenir, je dirais, l'émotion dans la sphère plus privée. Il faut accompagner effectivement les victimes et les personnes qui sont autour des victimes d'actes de terrorisme. Ça, j'ai aucun doute là-dessus, puisque c'est un acte politique en soi. C'est pas de la délinquance. Mais en revanche, je pense que c'est vraiment la responsabilité des politiques de s'asseoir avec les médias et de voir jusqu'à quel point le devoir ou l'obligation d'information dans laquelle sont les médias est compatible, ou comment est-ce qu'on peut l'articuler avec le refus d'hystériser cette information.
Et pourtant, ce qu'on a vu récemment, en règle générale, pas toujours, mais c'est quand même ceux qui sont au pouvoir se présentent comme des remparts, et donc pour marquer des points par rapport à l'opinion publique qui demande de protection, et ceux qui sont en opposition en tirent parti pour mettre en cause le gouvernement de son inaction et demander des mesures supplémentaires. Donc quand même, généralement, les responsables politiques sont plutôt venus faire de la surenchère que calmer le jeu.
Je pense que c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que s'il y a un seul langage à tenir, un seul, il est très simple. Le langage qu'il faut tenir à nos compatriotes en période de pression très forte, telle qu'on l'a vécu ces dernières années, c'est un langage de vérité. C'est de la vérité. Je veux dire, c'est ce qu'ont fait toutes les grandes nations dans des moments autrement compliqués. C'est ce qu'a fait Churchill. Les larmes, du sang, de la sueur. C'est ça qu'il faut dire aux Français. Il faut leur dire, ça va être long, ça va être compliqué. Chacun peut aussi, à son niveau, y contribuer en étant plus vigilant, en étant responsable, non pas en dénonçant systématiquement son voisin, mais en alertant en amont quand on a un doute, y compris dans sa propre famille, pour pouvoir aider non pas les services de renseignement, mais les services d'éducation spécialisés, les psys, etc. Parce que notre problème, il est bien plus large qu'un problème sécuritaire, c'est un problème de société. Qu'on le veuille ou non, si cette affaire de Daesh a autant prospéré sur notre sol, c'est un, bien sûr, parce que ils ont eu des moyens comme aucune entreprise terroriste n'en a eu dans le passé, qu'ils ont eu un territoire, que la frontière turque est une frontière européenne, que donc on était moins loin que l'Afghanistan. Il y a mille raisons objectives qui montrent que, bien sûr, l'emprise ou l'empreinte de Daesh, de manière générale, était plus forte que ce qu'on a connu dans le passé. Mais pourquoi une telle résonance en France? Pourquoi le premier contingent européen était français? Mais c'est toute notre histoire qui doit être interrogée.
Mais certains vont vous dire que...
Y compris notre histoire coloniale. Le pourquoi ces gamins de troisième génération, marocains, tunisiens, algériens, mais pas que, il y a des Français aussi de pure souche, entre guillemets, qui ont commis des attentats. C'est là qu'il faut porter la réflexion. La réflexion, elle doit être là. Le reste, on l'améliore. On a besoin de personne pour faire des grands moulinets, expliquer que demain, on va avoir une loi antiterroriste qui va régler tous les problèmes. Tous ceux qui disent ça sont des menteurs. Aucune loi ne réglera le problème du terrorisme en France. D'abord parce que l'arsenal juridique, il est plein comme un œuf. En rajouter, c'est mort sur les libertés fondamentales. Et je ne pense pas que ce soit le rêve des Français d'aliéner deux siècles de combat au motif qu'aujourd'hui, si on se livre pas pieds et poings à des juridictions d'exception ou à un ordre juridique qui soit plus constitutionnel, on sera meilleur et on sera plus efficace. Je n'y crois absolument pas.
Pourtant, certains vont dire que expliquer le terrorisme, c'est le légitimer.
C'est incompréhensible pour moi, c'est incompréhensible cette attitude, dans la mesure où la base, le substrat même de toute notre mission collective, elle est précisément là-dedans, dans notre capacité, alors pour les services de renseignement, de détricoter les choses comme ils savent le faire, mais pour le reste, comprendre ce qui se passe dans nos banlieues, quelles sont les aspirations des jeunes, pourquoi ce qui ressemble furieusement à une forme d'endoctrinement, ça ne marchait pas il y a 10 ans, pourquoi ça marche aujourd'hui? Les questions, elles sont celles-là. Et ça, c'est des questions qui plus que jamais doivent mobiliser toute la société, tous les centres de recherche, tous ceux. Moi, quand j'étais à l'Élysée, Je suis allé voir régulièrement le patron du CNRS, j'ai allé voir le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur. On a lancé une bourse à projet pour des thèses ou des doctorats qui intégreraient tous les éléments de la lutte contre le terrorisme de façon à savoir quelles étaient les choses qui avaient pu encore nous échapper dans cette affaire, sur un plan anthropologique, urbain, technologique, etc. Donc le sujet ne s'épuise pas du tout à ce qu'on évoque aujourd'hui.
Est-ce que la coopération entre les pays européens vous paraît, et les services européens vous paraît satisfaisante? On parle parfois de créer un FBI européen. Est-ce que ça vous paraît souhaitable, possible? Un, et deux, où en est cette coopération européenne qui, pendant très longtemps, était quand même très faible?
Il y a une coopération policière et judiciaire via Interpol. Donc ça existe, je veux dire, les, les différentes structures de nos pays savent utiliser à fond les moyens qui existent au niveau européen. En revanche, il n'y a pas, peut-être pas pour de bonnes raisons, mais je pense que s'il n'y a pas de structure type FBI européenne, c'est d'abord parce que chaque service est structuré de manière différente dans chacun de nos pays, en fonction de leur histoire, en fonction de ce que ces services ont pu jouer comme rôle dans le passé, etc. On a l'Europe, c'est pas que l'Europe de l'Ouest, c'est aussi l'Europe de l'Est. Beaucoup des services hérités de l'Europe de l'Est sont encore dans une relation où les opinions les regardent un peu en chaîne de faïence. Donc je pense que c'est compliqué d'imaginer un FBI à l'échelle européenne. Moi, honnêtement, j'y crois pas trop. Je pense qu'on peut renforcer la coopération entre services, et je pense que là où ça devient vraiment opérationnel, les services savent faire, ils savent trouver leurs homologues, ils savent échanger des informations qui leur permettent d'avancer. Donc je suis un peu réservé sur quelque chose qui ressemblerait à une usine à gaz quand même.
On a beaucoup parlé de terrorisme, c'est le sujet médiatique et politique peut-être le plus mis en avant, mais quels sont les autres aspects du renseignement qui vous ont pris le plus de temps? Quels sont les autres aspects qui sont peut-être moins connus du public, mais qui sont essentiels pour la sécurité de la France?
Bon, il y en a deux dont on parle beaucoup. Il y a tout ce qui est lié à la cybersécurité. Bon, c'est clair que ça sera le gros enjeu du 21e siècle. À partir du moment où tout est connecté, et nos vies, nos cités deviennent smart, intelligentes, où nos voitures fonctionneront sans pilote et où, qu'à Dieu ne plaise, nos centrales nucléaires seront, à un moment dans une espèce de cloud où on pourra aussi... Ce n'est pas le cas aujourd'hui, hein, je vous rassure, mais... On voit très bien que c'est là le nerf de la guerre. Le vrai point sensible de nos sociétés, qui sont des sociétés de plus en plus ouvertes et interconnectées, c'est le cheval de Troie cybernétique. Enfin, c'est vraiment, pour moi, j'ai pas de doute là-dessus. Moi, ce qui m'a le plus intéressé pendant ces presque 2 années d'expérience, c'était les défis liés à l'intelligence économique. Parce que c'est un sujet sur lequel les Français sont presque aussi embarrassés qu'ils le sont de manière générale par rapport à l'espionnage ou au contre-espionnage. L'intelligence économique, c'est toujours connoté comme quelque chose pareil, de pas tout à fait loyal, honnête, des moyens auxquels on ne devrait pas avoir recours, c'est pas à la française. À la française, c'est du panache, on invente, on développe des brevets formidables. D'ailleurs, notre pays a toujours tout inventé, du cinéma à la photo, en passant par la voiture à vapeur jusqu'à l'aviation et j'en passe. Donc, il y a cette espèce de croyance que ce qui compte dans une société pour être puissante, c'est les ingénieurs. Une fois qu'on a l'idée, on a tout. Beaucoup de pays sont beaucoup plus modestes. Ils pensent que les idées, elles naîtront forcément quelque part. Le plus important, c'est de les développer, de les exploiter, de les industrialiser. C'est une approche très américaine, très chinoise, très russe, qui tous déploient des moyens, mais colossaux, pour savoir où sont les inventions de demain et comment les capter au plus vite. Ça peut être des moyens légaux, un fonds souverain ou crypto-souverain, qui s'intéresse, les cartes à puces il y a quelques dizaines d'années, et puis ce qui devait être un brevet français qui aurait pu révolutionner notre industrie, passe discrètement aux États-Unis sans même qu'on s'en rende compte. Ça peut être un labo qui a découvert une technologie non intrusive sur un champ de la médecine dont on sait que potentiellement il a 2 milliards d'individus concernés et qui tout doucement va partir à l'étranger parce qu'on s'aperçoit au bout de quelques mois que tous les concepteurs de ce truc ont tous été invités pendant 3-6 mois dans un laboratoire à Pékin pour travailler avec leurs homologues en leur faisant des conditions absolument extraordinaires. Et puis, 2 ans plus tard, on s'aperçoit que la boîte, elle est partie, quoi. Donc, je pense que ces enjeux-là feront beaucoup plus de victimes que le terrorisme dans notre pays. Parce que si on paume nos entreprises, notre savoir-faire, nos chercheurs, nos brevets, autant vous dire qu'il ne restera pas grand-chose dans notre pays, à part nos yeux pour pleurer, des banlieues qui, pour le coup, seront encore dans un plus mauvais état parce que notre pays se sera économiquement effondré. Donc le vrai enjeu, pour moi, il est là. Il est dans notre capacité à préserver notre patrimoine industriel, technologique,
scientifique. Mais il n'y a pas la même mobilisation politique et médiatique sur ces enjeux que sur le terrorisme.
Non, parce que c'est plus compliqué, ça demande...
C'est moins spectaculaire.
C'est moins spectaculaire, mais croyez-moi, je pense que dans 10 ans, si on a cette discussion, on verra que ce n'est pas le terrorisme qui aura changé nos vies, mais c'est bien ça.
Merci Didier Lebret pour cet entretien passionnant.
Merci.